Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 22 mars 2020, quelques jours après le début du confinement, Bénédicte, une auditrice, nous écrit. Bonsoir, ma sœur est éducatrice pour enfants dans un foyer d'accueil d'urgence de l'aide sociale à l'enfance. Comme nous tous, elle était très inquiète depuis des semaines, voyant la catastrophe du Covid-19 se profiler en France. Mercredi dernier, elle s'est occupée d'une petite fille arrivée la veille, fiévreuse, qui venait de s'écrouler. La fillette a été diagnostiquée Covid-19 et mise en quarantaine. Ma sœur Pauline a déclaré la maladie le lendemain, jeudi. Elle est depuis confinée chez elle. Le vendredi, le foyer a enfin reçu des masques et de l'eau de Javel, mais certains collègues sont positifs. Alors, qui s'occupera des enfants placés si de nombreux cas apparaissent chez les éducs? Ce courrier n'est pas la seule alerte qui nous parvient sur la situation des enfants en foyer. Rapidement, plusieurs articles relaient les inquiétudes des professionnels. La situation concerne plus de 300 000 enfants et jeunes majeurs qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance en France, dont 170 000 placés en pouponnière, en foyer d'hébergement, en foyer d'urgence, en studio ou en famille d'accueil. Or, depuis le début du confinement, les visites à domicile sont suspendues, les visites des parents en foyer aussi, et bien sûr l'école. Comme la sœur de cette auditrice, de nombreux éducateurs et travailleurs sociaux sont en arrêt maladie. Dans certains départements, le taux d'absentéisme est de 50%. Ceux qui restent doivent s'occuper des ados et des enfants surconfinés nuit et jour. Le nombre de fugues explose et les jeunes placés en foyer qui sont rentrés chez leurs parents exceptionnellement pour le confinement s'exposent à des violences au sein de la famille. Rapidement, Olivia Muller, productrice au pied sur terre, décide de s'intéresser au sort de ses enfants. Elle leur parle régulièrement et les a joints aussi depuis le 11 mai pour savoir comment ils sont sortis et dans quel état. Ils sont 6, ados et éducateurs, à raconter cette étrange période à Olivia Muller, donc, tout de suite dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, je m'appelle Nadia, j'ai 17 ans, je viens d'Haïti, je suis venue en France après le tremblement de terre. Avec mes frères, ça se passait pas bien. Je me faisais taper, parfois je me faisais enfermer dans ma chambre pendant des heures. Je suis accueillie dans une maison d'enfance dans le 78, près de Paris. J'ai pas du tout de lien avec mes parents, j'ai pas d'appel, j'ai pas de contact, j'ai rien de tout ça. Du coup, pendant le confinement, je suis restée au foyer. On est confinés depuis à peu près le 16 mars, ça fait au moins un an qu'on n'a pas de télé. Ils s'en occupaient pas du tout. Et là, vu qu'il y avait le confinement, je pense qu'ils savent qu'on est plus susceptible de péter, comme ils appellent ça, genre de faire des crises. Ils ont remis en place la télé, du coup. Ils sont allés acheter des box, des consoles, des jeux de société. Ils ont acheté la paix. Pendant 2 mois, nous avons accueilli un jeune qui était bipolaire dans le groupe. Le fait qu'on soit enfermé, du coup, on est plus irritable. Donc le jeune, il nous cherchait. Et le moindre petit truc, ça partait en bagarre. La cuisine, elle a été retournée. Il y a un jeune qui s'est fait étrangler, il était bleu. Moi, je pensais qu'il allait mourir. L'éducatrice, elle était sur lui, elle essayait de le pousser. Elle a dû prendre le balai et taper le jeune qui était en train d'étrangler le jeune avec, justement. L'éducateur, il s'est pris une chaise dans la tête, il s'est ouvert l'arcade. Et en fait, c'est nous, les jeunes, ma soeur et moi, ma petite soeur et moi, qui avons dû intervenir. J'ai dû l'étrangler pour qu'il lâche. Et après, je me rappelle, il a pris une barre de fer, il a voulu me taper avec.
Ça, c'était pendant le confinement, les premiers jours.
Le début du confinement, pendant... Là, le jeune, il a été viré il y a une semaine. Les policiers, ils ont intervenu. Ils avaient leur arme pointée. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont dit, sortez. Enfin, c'est pas des scènes qu'on voit tous les jours. Moi, je pense que, à la base, on est venu au foyer pour être protégé. On n'est pas venu pour vivre pire ou vivre ce qu'on vivait à la maison. Donc, du coup, pendant plusieurs jours, ça a été la guerre sur le groupe. Tout le monde était sur ses gardes. Tout le monde était énervé. Enfin, c'était que ça. Moi, ce confinement, après, je dirais pas que je le vis bien. Il y a forcément du stress parce que, à l'école, j'ai mes examens à passer à la fin de l'année. Du coup, les épreuves du bac qui ont été mis en contrôle continu. Du coup, forcément, je stresse un peu plus. Le matin, quand je me réveille, je vais surprendre, je vois une tonne de devoirs et, c'est incompréhensible. Et puis, parfois, les profs, je trouve qu'ils abusent un peu parce qu'ils vont derrière leur ordinateur, ils mettent plein de devoirs et puis nous, on se débrouille avec. Déjà qu'à la base, je suis pas quelqu'un de très scolaire et que j'essaye de m'en sortir, j'essaye de comprendre. bah là, je suis submergée, en fait. Les éducateurs, eux, ils peuvent pas nous aider sur ça. Ils peuvent pas gérer et l'administration de l'école, et le goûter, et les douches, enfin, plein de trucs comme ça.
Toi, tu fais quoi, du coup, de tes journées?
Bah, la plupart du temps, au début du confinement, vu qu'il était censé y avoir école, les éducateurs, ils nous réveillaient vers 11h30, midi, pour qu'on garde un rythme, entre guillemets. Moi, je fais la cuisine pour m'occuper. Parfois, j'ai envie de faire à manger. Du coup, je fais à manger pour tout le monde le soir. Et à un moment donné, j'en ai marre parce que c'était tout le temps moi je faisais à manger, les autres ils faisaient pas. Donc les éducateurs, ils ont mis en place un planning. Moi, je fais des plats plus élaborés. Et du coup, parfois, bah, ça m'énerve un peu quand c'est les autres qui font à manger parce que on mange tout le temps la même chose. C'est pour ça que parfois, je me propose de se faire à manger toute la semaine parce que les autres, ils font pâtes. Ils varient pas, en fait.
Et toi, tu fais quoi, par exemple?
Je fais des pommes de terre, des purées, des plats africains, du coup. Il y a un autre jeune sur le groupe, lui, il sait plus faire les desserts, du coup, lui, il fait des fraisiers. Enfin, on est plus deux à faire à manger sur le groupe. Lui, il s'occupe des desserts, moi, je m'occupe des plats. Il y a des jours où je vais être plus énervée que d'autres. D'autres, je vais être plus triste. Bah, quand je suis triste, la plupart du temps, vu que c'est le soir, j'écris. J'écris ce qui se passe.
Arthur, je suis éducateur en Bourgogne-Franche-Comté. Sur notre service, il y a un internat, un foyer sur lequel vivent des jeunes, mais on accompagne aussi des jeunes en PEAD, donc en placement éducatif à domicile. Les jeunes sont chez leurs parents et on les accompagne depuis chez leurs parents. Et on a aussi des studios qu'on met à disposition des jeunes pour leur permettre d'accéder à l'autonomie. Alors, il y a un jeune qui est parti de lui-même, qui a fugué en fait, pour aller chez sa maman, malgré normalement l'interdiction d'y être. Maintenant qu'il y est, du coup, on ne peut plus le réintégrer sur le foyer, il y a trop de risques. Et après, il y a d'autres jeunes qui sont partis en famille d'accueil. Et puis, d'autres jeunes dont on a dû demander à la famille de prendre le relais de l'internat, parce que ça mettait beaucoup trop en danger les autres jeunes. Voilà, des jeunes qui fuguaient pendant le confinement, revenaient, sortaient. Et puis, chez les jeunes, ça se traduit aussi par de l'agitation, par de l'énervement. C'est des claquements de porte, c'est de l'agressivité envers nous. C'est mal parler, insulter, s'en prendre parfois aux autres jeunes. Donc en fait, si vous voulez, ça peut très très vite monter pour presque rien. Puis après, est arrivée la question des studios et des PEAD. Donc ces accompagnements en studio, c'est pas des jeunes qu'on met en studio puis qu'on laisse se débrouiller. Hein. C'est des jeunes qu'on voit au moins 3 ou 4 fois par semaine. Du coup, là, pour eux, d'un seul coup, ils se retrouvent enfermés dans des petits studios, hein, puisque c'est des studios de 15 mètres carrés, avec peu de ressources pour s'occuper. Certains n'ont pas de télé, n'ont pas d'accès à Internet, par exemple. Ils s'ennuient beaucoup, il y a une grande solitude. Et puis, pour certains de nos jeunes aussi, il faut savoir que l'enfermement, ça les ramène à des événements traumatiques qu'ils ont vécu plus tôt dans leur jeunesse. Et donc, ça fait remonter tout un tas de choses. Et le gros risque, du coup, ça devient la décompensation, la dépression. Donc, on est en lien, enfin, nos psychologues de service restent mobilisés, donc elles les appellent. Elles prennent des nouvelles d'eux, elles passent du temps au téléphone avec eux. Et puis, elles se laissent la possibilité quand même de rendez-vous physique. Il y en a beaucoup qui ont perdu la notion du temps, qui savent plus quel jour on est, qui sont complètement décalés dans leur rythme, qui dorment la journée, vivent la nuit. Et c'est arrivé que certains viennent nous voir parce que ils ont besoin de parler, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai découvert qu'une jeune était complètement inversée dans son rythme parce que ça faisait presque 48 heures qu'elle répondait pas au téléphone. Du coup, j'étais très inquiet et je me suis rendu à son studio parce qu'on a quand même le droit de s'y rendre, mais en cas d'urgence, quoi. Et quand je suis allé la voir, il devait être 16h, et elle était au fond de son lit, et quand je l'ai réveillée, elle m'expliquait qu'en fait, elle était couchée depuis 14h, parce qu'elle s'était réveillée à 1h du matin, et que du coup, sa journée s'était déroulée de 1h du matin à 14h, et que là, elle dormait, et puis qu'elle se réveillerait cette nuit à 23h minuit. Il y en a certains qui ont réussi à discuter un petit peu avec leurs voisins pour récupérer des codes de Wi-Fi. Voilà, ils bricolent un petit peu de cette manière-là, pour arriver à occuper leur journée, quoi. Ils ont rien. C'est des jeunes qui, d'ordinaire, vont à l'école. Et puis, le week-end, pour certains, ils rentrent tous les week-ends dans la famille. Donc, voilà, ils sont jamais vraiment confrontés à cette solitude dans l'appartement. Ça devient très dur pour eux.
Je m'appelle Marie, j'ai 17 ans, je suis en projet semi-autonomie. J'ai été placée suite à des violences familiales en novembre 2017, sur Arras.
Je suis dans un studio toute seule, où je fais mes courses avec 50 euros par semaine, ce qui est largement faisable. Et en gros, c'est comme si je vivais dans un appartement, hormis les factures à payer, toutes les charges. C'est la première semaine où je suis tombée malade. La deuxième semaine de confinement, j'ai enfin pu avoir un rendez-vous chez le médecin. J'avais des difficultés respiratoires et j'ai eu deux montées de fièvre. Donc j'étais vraiment très très fatiguée et depuis j'ai eu beaucoup de mal à me réalimenter. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là, déjà que je voyais pas beaucoup de gens. Bah alors là, rester vraiment toute seule, enfermée à 17 ans, à pouvoir rien faire, être beaucoup trop fatiguée pour faire la moindre chose. Et malheureusement, ben, je fais des rechutes de dépression quand je suis toute seule. Être dans le grand silence total, à part ta télé ou tes vidéos ou ta série, tu t'ennuies en fait tout seul. Et c'est difficile parce que même les éducateurs, ils peuvent pas trop rentrer chez toi parce que souci de contamination, qui reste assez loin de toi. Il reste pas trop longtemps à te parler en général. Bah, si on devait décrire le premier mois de confinement, en tout cas, ce serait en un mot, ce serait solitude. Sinon, il y a les plus petits, des jeunes de 5 à 16 ans. Eux le vivent vraiment très très mal de plus pouvoir du tout voir leurs parents. Et en plus de pas pouvoir sortir parce que leur cour, elle est vraiment pas très très grande. C'est du bitume et ils discutent souvent devant ma fenêtre parce que leur cour donne sur ma fenêtre. Alors souvent ils squattent sur le rebord et puis ils pleurent. Quand on leur dit, ben non, ce week-end tu pourras pas voir ton père ou ta mère, tu vois. Ce qui me manque, c'est vraiment de faire des allers-retours entre chez moi et le lycée, quoi. Bah, c'était le moment où j'oubliais que bah j'étais pas juste une gamine toute seule dans mon studio. T'as l'impression de grandir dans un monde parallèle où toi tu dois être adulte à 15-16 ans. Alors que bah, les autres ils profitent de leur adolescence sans souci en fait.
Je m'appelle Céleste, je suis en terminale littéraire, j'habite dans l'Oise. Et je suis placée depuis octobre 2019. Avant, j'habitais chez ma mère et c'était très compliqué parce que c'était un quotidien de violence verbale, physique et sexuelle. J'ai mis 7 ans avant d'être placée parce que on voulait pas me croire étant donné que je fais partie d'une famille un petit peu bien vue dans ma région. Donc ça a été un peu un parcours du combattant. Et puis, pour que vraiment la situation soit prise en compte, j'ai fini par envoyer une lettre à Brigitte Macron. Elle a pris en considération la situation et a nommé une défenseuse des droits des enfants, ce qui a fait que j'ai été placée au final. Il y a eu un incident dans le confinement, là, c'était qu'une jeune, en fait, était tombée enceinte et elle a voulu retrouver le père de son enfant. Enfin, même si les éducateurs lui avaient dit que c'était pas du tout une bonne idée et que ça mettait tout le monde en danger dans le foyer, puis même elle et son bébé. En fait, du coup, elle a décidé de fuguer parce que pour elle, l'éloignement était trop dur. Et ce qui a fait que ça a été un peu compliqué quand elle est revenue parce que il fallait tout désinfecter derrière elle. Elle était confinée dans sa chambre. Enfin, c'était pas un épisode très sympa du confinement, quoi. Puis, on est beaucoup à être très attachés quand même à l'école parce que c'est quand même un train de vie et puis ça nous permet d'avoir un rythme et on n'est pas obligé de dire qu'on vit en foyer et qu'on a une histoire compliquée derrière nous, donc il y a ce côté de se sentir inscrit dans la société quand même. Il y a le fait que on n'a pas nos parents, soit certains n'ont pas de parents du tout, soit d'autres les ont pas vers eux, et quelquefois on se dit qu'on aimerait bien avoir une famille normale et puis pas avoir de problème. Quand je vais pas bien, je vais dans les bois, j'écoute les oiseaux, ou le soir, je regarde les étoiles et ça me change les idées et tout. Et là, du coup, je le fais pas trop. Il y a quand même un grand truc qui me dérange un petit peu dans le confinement, c'est que on a parlé de la scolarité, on a parlé des EHPAD, on a parlé de comment faire ses courses, de comment se protéger, tout ça. Pour ce qui est des enfants qui sont classés, c'est très flou. Il n'y a pas vraiment d'article qui parle d'eux. On a l'impression d'être un peu oublié de la société, enfin mis de côté. et de pas être pris en considération. Puis je me dis aussi que même si le quotidien en foyer est parfois compliqué et parfois lourd à porter, et ben on a quand même la chance d'être protégé des personnes qui nous faisaient du mal. Et c'est pas forcément le cas de tous les enfants de France. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont encore enfermés chez eux, en train de se faire battre. Et ça, c'est pareil, ça me dérange aussi parce que on arrête tout le système de protection de l'enfance, tout ça, parce que il y a un virus dehors. Bah, je trouve ça un petit peu limite, quoi.
Je m'appelle Noé, j'ai 12 ans. En ce moment, je suis chez ma famille d'accueil. Alors, je me sens bien. Le confinement, ça me dérange pas trop, à part que je peux pas sortir et aller voir mes amis. Mais sinon, ça me dérange pas trop. Je fais des écrans, je regarde la télé, je joue à ma tablette, je fais du trampoline, je sors dehors un petit peu. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une fourmilière chez moi. C'est que j'avais commencé à trouver une araignée, je l'ai mise dans une boîte. Après, j'ai vu que les araignées, elles avaient tué une fourmi. Du coup, je me suis dit, je vais faire une fourmilière avec que les fourmis, comme ça, ce sera mieux. Le 31 mars, j'ai fêté mon anniversaire pendant le confinement. J'ai eu 12 ans. On a mangé un gâteau, un roulé au Milka, c'est mon gâteau préféré. Ensuite, j'ai eu des cadeaux. Et ça s'est bien passé.
Tu l'as fêté où, du coup?
Chez ma mère d'accueil. Il y a ma mère que je peux pas voir, ma sœur. On s'envoie beaucoup de messages. Avec ma sœur, on fait des FaceTime. C'est mieux. C'est que ma mère, pas très jeune, elle a été alcoolique. Et du coup, elle avait un peu de mal à s'occuper de nous. Mais quand j'étais pas confinée, je la voyais un week-end sur deux. C'est embêtant, mais je la reverrai à un moment.
Je m'appelle Coraline, je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance et j'exerce dans un foyer d'accueil d'urgence. Donc sur mon service, les enfants sont âgés de 6 à 10 ans. Ce qui est vraiment plus compliqué, voilà, c'est le soir au coucher. Puis certains, il y a certains enfants, ça fait, il y en a un, ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu sa maman. Et lui, c'est juste, pour son quotidien, dans ses rituels, c'est d'une violence extrême. Plusieurs fois par jour, il pète les plombs. Il va se mordre, il va taper contre les murs. Il est en souffrance plus. Et nous, on n'arrive pas trop à l'apaiser. C'est très, très, très difficile. Et lui, il le dit, il est tout à fait en capacité de verbaliser les choses. Il dit que sa mère lui manque et que c'est insupportable de ne pas voir maman. Il s'inquiète pour sa maman. On essaie de faire des appels par visio pour qu'il puisse voir sa maman. Mais sur un quotidien, à gérer 8 autres enfants, c'est très compliqué. On a des enfants qui tentent des fugues.
Et comment ils font? Est-ce que certains ont réussi?
Il y en a un qui a réussi à s'échapper, oui. Comme on a droit quand même à 1 heure de sortie par jour, il a échappé à la surveillance de l'équipe, 2 minutes, il est parti en courant, quoi. Il a été rattrapé, récupéré, mais c'est des enfants, parce que c'est plus facile de vivre dans l'imaginaire, ont plus de facilité à s'imaginer être un chevalier devant lutter contre des dragons, que d'être un petit enfant de 7 ans qui est placé dans un foyer. Et du coup, concrètement, là, ce petit garçon, il était plus parti en bataille contre des dragons d'échapper vis-à-vis des éducateurs. Donc depuis, on évite les sorties à l'extérieur. Idéalement, il faudrait qu'on évite les câlins aussi. Parce que si on ne veut pas continuer à se contaminer, mais c'est impossible. On sait qu'on va devoir accueillir des enfants. On sait que les listes d'attente sont en train de se rallonger. C'est-à-dire que les enfants qu'on accueille, ils ne sont pas censés rester plusieurs mois. Ensuite, ils sont orientés, mais là, on ne peut faire aucune orientation. Parce que tout est suspendu, tout est bloqué. Mais on sait que dès qu'il va y avoir des places qui vont se libérer, ça va être rempli dans la journée. Donc on sait qu'il y a des signalements, mais on ne peut pas accueillir les enfants. Ça va exploser, quoi. On le sait.
Mais je joue à papa et à maman.
Tu joues à papa et à maman et tu joues... Tu es où, là? Dehors, dedans, dans ta chambre, où est-ce que tu joues?
Toi. Je joue avec mon cartable. À l'école.
T'as envie de retourner à l'école? Oui, tu veux revoir ta maîtresse?
Arthur et Coralie, les éducateurs, Nadia, Marie et Céleste, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, je les ai interrogés pour la première fois mi-avril. À la veille du déconfinement, je les appelle pour reprendre des nouvelles.
Oui,
oui. Bonjour, c'est Olivia. Je voulais prendre de vos nouvelles, savoir comment ça se passe chez vous depuis la dernière fois qu'on s'est parlé.
Eh bien, nous avons fait notre dernier roulement de travail avec un rythme intensif. Avec des enfants qui ne supportent absolument plus le confinement. C'est-à-dire, ils ont besoin d'aller à l'école, de retrouver du lien social, de sortir. C'est-à-dire que moi, j'avais organisé leur retour à l'école parce que les écoles nous ont contactés. Ils font partie des enfants prioritaires pour la reprise de scolarité. Et une fois que tout était acté, préparé, j'ai appris que l'aide sociale à l'enfance, au niveau départemental, était opposée à un retour des enfants à l'école. Psychologiquement, les enfants dans le groupe ne se supportent plus. Du coup, manifestent des états de régression. Donc, ça veut dire des enfants qui étaient autonomes sur, par exemple, s'habiller seul, faire sa toilette seule, des petites choses comme ça du quotidien, on demande sans arrêt que l'adulte soit à ses côtés pour l'accompagner. Beaucoup de manifestations de violence physique. Plus rien n'est contrôlé, en fait. Et ensuite, il y a la problématique. On a deux enfants qui ont des troubles du comportement marqués parce qu'ils ont des maladies psychologiques. Et là, c'est pire que pire. Donc moi, je me suis retrouvée pendant une semaine avec... cet enfant qui cherchait du contact, qui avait besoin d'être rassuré physiquement, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Donc ça a été très éprouvant. Je suis épuisée.
Et l'enfant qui n'avait pas vu sa maman depuis 2 mois, dont vous me parliez aussi la dernière fois, comment ça va?
Oh ben ça va pas. Ça va pas du tout. La dernière fois, il avait un trousseau de clés, il a essayé d'ouvrir le portail pour pouvoir sortir. Parce qu'il a compris qu'à l'extérieur du lieu de vie, c'était peut-être l'endroit où il y a sa maman, ce qui n'est pas le cas, mais dans sa tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on a beau le raisonner, lui expliquer que sa maman habite loin, et que même s'il arrive à sortir du lieu de vie, il ne sera pas en capacité de voir sa maman parce qu'il faut prendre une voiture, c'est très très loin. Il n'arrive pas du tout à le conscientiser et le comprendre.
Oui, allô?
Oui, du coup, je suis prêt, j'ai un téléphone qui marche.
Ok, ça a l'air d'être bon, super. Du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 3 semaines, que s'est-il passé?
On a eu surtout des jeunes en studio pour qui ça a été très très difficile. On a dû, pour une jeune fille, on était très inquiets. Puisse avoir un passage à l'acte, enfin, elle se mutilait et puis elle parlait d'elle-même de suicide. Donc on a dû la voir tous les jours absolument, s'assurer que tout va bien. Et on a un jeune par exemple qui, de colère, a frappé dans une vitre, s'est ouvert la main. Quelque chose que ce jeune-là ne ferait jamais, qu'il n'a jamais fait. Les collègues sur l'internat sont en train de gérer une cocotte minute. Mais je crois que le plus dur, en fait, ça va être surtout pour ces jeunes qui sont en foyer d'ordinaire et qui, pour le confinement, sont retournés chez leurs parents. Et maintenant, de repréparer le retour sur le foyer, parce que du coup, le placement, c'est une décision judiciaire. Il y en a qui vont mettre en question les décisions de justice en disant « j'ai pas le droit d'être chez ma mère », par exemple. Et puis là, en fait, j'y passe 2 mois, tout se passe très bien, donc je vois pas pourquoi je retournerai au foyer. Il y a un travail qui est à refaire. Le lien avec nous, il s'est forcément un peu perdu, hein, pas de moi. Est-ce que ces jeunes à qui on a autorisé d'aller chez leurs parents parce que c'était la meilleure solution à ce moment-là, est-ce que ces jeunes vont revenir sur l'unité ? Est-ce qu'ils seront en capacité de revenir, quoi ?
Allô ?
Allô, Nadia ?
Oui, bonjour. Il n'y a pas eu de tension du tout. Après, à part avec le veilleur de nuit, il y a eu des petites histoires, mais sinon, non. Parce qu'à la base, les verres de nuit, ils sont payés pour faire des nuits debout, pas des nuits couchées. Et du coup, bah là, le verre de nuit qu'on a, lui, il dort, il passe son temps à dormir et tout. Quand on va l'appeler la nuit, par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, pendant le confinement, vu que j'ai des problèmes d'intestin, je suis allée le voir parce que j'avais mal au ventre. J'ai essayé d'ouvrir la porte du bureau, elle était fermée à clé et tout. Et il répondait pas du tout. Je l'appelais, il disait « Après, il se rendormait. Et genre, tout ça, on a signalé et tout, il ferme rien du tout, il laisse même les fenêtres du bas ouvertes alors qu'il y a n'importe qui peut rentrer.
Tu te réveilles à midi toujours ?
Non, je me réveille beaucoup plus tard, à 17h, 18h et tout, parce que du coup, à cause du ramadan, je m'endormais le matin à 6h, parce que j'arrivais plus à dormir la nuit. Parfois, du coup, je continue à écrire, ou sinon, je suis sur les réseaux, je regarde des films, ça dépend. On va pas retourner à l'école. En soi, je pense que c'est une bonne chose parce que, si on regarde les infos et tout, le virus, il n'est pas vraiment parti. Hein. Nous, on ne retourne pas à l'école, mais on n'a pas le droit de sortir. Je pense que pour nous, le confinement, il va continuer jusqu'au mois de juin.
C'était Confinement avec les enfants en foyer, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Clémence Grosse et mixé par Alain Joubert. Merci à Arthur, Céleste, Célia, Coralie, Marie, Nadia, Nathalie et Noé, ainsi qu'à Liès Loufoque. Si vous voulez lire un des textes que Nadia, la jeune fille haïtienne que vous avez entendue, a écrit et qui donne un aperçu de sa vie et de son talent, rendez-vous sur notre page Confinement avec les enfants en foyer, les pieds sur terre, sur le site de France Culture. Je vous y encourage. C'est Camille Richir et Roxane Poulain qui font les attachés de production des pieds sur terre et notre stagiaire et haute responsable des réseaux sociaux, c'est Sarah Djeriwi.